finalement, peut-être pour présenter, comme tu disais, donc le groupe, donc métal symphonique avec bon des éléments donc classiques avec en particulier la harpe. Peut-être un autre moyen de présenter le groupe, ça serait de mettre en avant les influences qui sont que vous partagez tous les quatre, et les groupes qui vous plaisent tous les quatre, qui d'une façon ou d'une autre un peu définissent votre identité.
Alors, de ce point de vue-là, c'est un petit peu particulier parce que bah, c'est vrai. En France, on a toujours ce besoin de mettre les groupes dans des boîtes, et voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait simplifier et dire que ce groupe-là, il fait du métal. Mais je dirais que c'est qu'une toute petite frange de ce qu'on fait finalement, parce qu'on incorpore des parties black, des parties celtes, des parties paganes, enfin des choses un petit peu plus complexe que simplement le fait soit de faire du power, soit de faire du sympho. Maintenant, on vient tous de mondes parfois un petit peu différents. Moi, je viens du monde du brutal death, du grind, du thrash, enfin des choses comme ça. Chez les autres, ils viennent plus d'une formation classique. Et c'est justement, je pense, ce qui rend le truc très intéressant, c'est qu'on arrive à faire le mix de tout ça en fait. C'est pas forcément simple, mais je pense que c'est ce qui fait que ça rend un peu difficile le fait de juste simplifier à dire que c'est du métal sympho. Maintenant, je peux comprendre qu'on simplifie parce qu'il faut bien simplifier, mais je pense qu'on va un petit peu plus loin que ça.
D'accord. Tu mentionnais ton background beaucoup plus extrême finalement, sur un plan purement technique. Tu te reposes avec Orkis?
Eh ben, dans le fond, non, en fait. Dans le fond, non, parce que notre but, c'est pas de faire de la technique pour qu'on montre ce que chacun sait faire. Ça, pour nous, ça nous aide pas, ça nous sert pas. Le seul truc qu'on se dit, c'est que bah, si pendant 30 secondes, il faut faire un bon vieux 4-4 boom-chack de base, parce que c'est ça qui sert le morceau, bah, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on est pas là pour qu'on montre ce qu'on est capable de faire d'un point de vue technique. On est là pour faire en sorte que les morceaux fonctionnent. Et si pour ça il faut qu'on fasse du moins technique, et ben on fera du moins technique. Voilà, parce que dans le fond c'est ça qui compte. Il faut que ça marche en termes de musique. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont largement plus forts que moi, qui pourraient faire des breaks de cinglés, enfin des trucs de malade. Mais je pense que ça servirait pas le morceau, clairement. Donc je vais pas le faire.
D'accord. Non, bah je. Ça se comprend tout à fait. Donc vous avez fait le choix pour de sortir un premier EP, Awakening. Finalement, pourquoi avoir fait le choix de faire connaître du public par rapport à un premier EP, et surtout que d'après ce que je disais, vous êtes déjà en train de bosser sur le second. Est-ce que il n'y avait pas eu l'idée de faire quelque chose de plus long ou de sortir un album directement?
Alors ça c'est quelque chose auquel on a réfléchi pendant un bon moment, et on s'est dit que la plupart des albums qui sortent dans les médias, dans la presse, voilà, ils vivent en gros pendant 6 mois. Et puis voilà. Donc on s'est dit, s'il faut passer 2 ou 3 ans à composer 12 titres pour n'avoir de visibilité grosso modo que pendant 6 mois, c'est un peu bête. Donc le plus intéressant pour nous, c'était de sortir un premier disque avec 3 titres qui va nous servir de carte de visite, je dirais, voilà, qui montre un petit peu tout ce qu'on peut faire, mais qui laisse planer le fait qu'on va pouvoir faire beaucoup plus par la suite. Mmh. Se dire que durant la visibilité que nous offre ce premier disque-là, on peut préparer le second, comme ça quand le second sort, on repart sur une phase de promo, ce qui nous permet d'avoir un rythme de production et donc un rythme de communication qui fonctionne, c'est-à-dire pour qu'on ait le moins de temps mort possible. Parce qu'on sait tous que, enfin, une page web qui publie rien pendant 15 jours, en gros, je dirais que 90% des gens pensent qu'elle est morte. Donc, si on veut pas tomber dans ce schéma-là, il faut qu'on produise. Et pour produire intelligemment, le fait de commencer, quand on est un jeune groupe qui se lance comme ça, de commencer par un petit disque de 3 morceaux, ça me semblait pertinent, surtout que le suivant va pas tarder. Il est prévu, grosso modo, pour pour le printemps. On va tomber pile dans la phase des 6-7 mois, au moment où la com commence à retomber. Il y a un nouveau disque qui va sortir, donc on va repartir sur la communication, et donc ça fait qu'on aura toujours sur scène, tellement on pourra retourner sur la scène, il y aura toujours de nouveaux titres qu'il va falloir qu'on défende. Sans compter que ça va créer des news, forcément, puisque à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Donc ça nous permet de produire, de faire ce qu'on aime, de partager plus fréquemment et d'avoir un rythme de com qui est beaucoup plus viable que le fait de sortir un disque tous les 2-3 ans, et donc de se retrouver avec presque 20 mois durant lesquels bah, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, hormis les dates de concert, lorsqu'il y en a.
D'accord. Et est-ce à dire que c'est une stratégie que vous comptez faire perdurer, ou il y a un, ou vous avez déjà quand même l'idée d'un album dans le viseur?
Alors, on est en train de réfléchir au fait de se dire que le troisième disque pourrait être de ce format-là. Il pourrait être un LP. Je pense que c'est peut-être ce qu'on risque de faire. Oui, je pense.
D'accord. Oui. Finalement, comment on est un titre au sein d'Orchis? C'est quoi est-ce que vous avez mis en place un processus de création?
Alors, le processus de composition, il est relativement simple, en fait. C'est-à-dire que c'est le guitariste, c'est Brice, qui fait quasiment toutes les compositions, c'est-à-dire vraiment tout, que ce soit les lignes de chant, harpe, basse, drums, enfin tout. Donc quand il vient, il a déjà quelque chose qui est presque terminé. De là, la chanteuse va concevoir un texte, elle va commencer à tenter de prendre la main sur le morceau pour le faire vivre, et tout ce qui est basse et drums, on va participer à la mise en place de tous les arrangements sur la composition de Brice. Alors ça peut parfois faire en sorte qu'il y ait des passages qui changent, qu'il y ait des dynamiques qui varient. Mais en gros, c'est le guitariste qui fait toutes les compositions, et le reste du groupe travaille à ce qu'on les mette en forme. Voilà. Pour avoir ce qu'on a mis sur disque il y a peu, par exemple.
D'accord. C'est pas une critique, mais ça paraît assez dirigiste comme process. Toi, de ton point de vue, ça te convient bien comme moyen de manière de fonctionner?
Alors, à partir du moment où dans ce groupe-là, on fonctionne absolument pas en tant que, moi, je suis celui qui tape, donc je tape ce que je veux, ou alors moi, je suis celui qui fait la basse, je fais la basse comme je veux. C'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Quand il y a une compo qui arrive, chacun va tenter de la prendre pour lui, de la jouer à sa façon, de faire son interprétation et donc de proposer des choses. Alors, c'est vrai que Brice, ce qu'il nous a déjà dit, c'est effectivement, s'il a mis certaines notes à certains endroits, c'est parce qu'elles doivent y être, c'est pas juste parce que ça fait joli de les mettre. Voilà, ça fait sens. Niveau de la structure, c'est pareil, ça fait sens. Mais on a énormément de place pour que tous les instrumentistes soient capables de s'exprimer, vraiment. Donc, non, c'est pas du dirigisme. Nous, ça nous convient plutôt bien parce qu'on est capable de dire ce qu'on veut dire, de faire vivre ce qu'on veut faire vivre. On est relativement libre de pouvoir faire les choses comme on le sent. Il s'avère que 99% des compos de Brice nous plaisent telles qu'elles sont, quasiment. Donc, pour nous, tout va bien de ce point de vue-là. Ça fonctionne plutôt bien.
D'accord. Tout ça, c'est le résultat. C'est beaucoup d'échanges de fichiers entre vous, ou vous vous retrouvez régulièrement dans un studio de répétition? Quelle est la dynamique du groupe?
Alors, la dynamique du groupe, c'est que bien avant d'être des gens qui jouent les mêmes titres, on est proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'on se voit vraiment en dehors du monde de la ZIC, pour qu'on se fasse des gouffres, pour qu'on discute, pour qu'on voit des films, pour qu'on se marre, pour qu'on fasse la fête, etc. Donc ça fait qu'on se connaît plutôt bien, et de temps en temps, j'ai à peu près un rythme de 15 jours, il y a des répétitions dans lesquelles on prend tout le travail qu'on a fait chacun chez soi, on bosse ça. On fait partie de ceux qui ne compose pas pendant les répétitions. On part du principe que c'est fait pour qu'on joue les morceaux et puis pour qu'on règle les quelques derniers petits détails. Voilà, c'est, voilà. C'est ce qui fait qu'on perd pas de temps finalement.
D'accord. Finalement, le choix des trois titres qui apparaissent sur Awakening, c'était les trois titres que vous avez jugé le plus mature à ce moment-là, et que vous avez fait un choix sur un nombre de compositions plus importantes qui d'ailleurs pourraient apparaître sur le deuxième EP, ou vous avez composé que ces titres-là et que vous aviez finalisé.
Alors, il faut savoir que même si on a sorti qu'un disque trois titres, on est capable de jouer sur scène un petit peu plus de 90 minutes déjà. Donc ça veut dire. D'accord. Qu'on a pas mal d'autres morceaux qui sont prêts, mais on a fait spécifiquement le choix de ces trois morceaux-là parce qu'on pense que pour un premier produit, ça nous représente relativement bien. C'est-à-dire que ça montre trois des grandes facettes du groupe. Ça montre pas toutes les facettes du groupe, mais ça en montre trois qui sont relativement claires. Et vu qu'on se voyait pas faire un truc 12 titres lors du premier. On a préféré faire ça. Donc on s'est dit, on va choisir les trois morceaux qui nous représentent pour le moment le mieux et qui ouvrent la porte vers la suite.
D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général justement des sessions d'enregistrement de ces trois titres? Et est-ce que par rapport à ton expérience toi du précédent de studio, est-ce que tu as été surpris certaines choses ou t'as modifié ta façon de d'enregistrer ou de poser tes parties.
Alors, forcément, par rapport à ce que j'ai fait dans des groupes qui eux sont un petit peu plus violents, forcément, je vais pas dire que techniquement c'est plus simple, mais ça demande d'être beaucoup plus juste, d'avoir des frappes qui sont beaucoup plus propres. Parce que c'est vrai, et ça, on pourra dire ce qu'on veut, mais le fait de jouer très très vite, quand on joue très très vite, ça gomme les petites erreurs. Alors que quand on est sur un tempo un petit peu plus lent, s'il y a des petites erreurs, ça s'entend tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut retravailler tout ça pour être sûr d'être vraiment propre. Donc ça n'a pas vraiment changé la façon dont j'ai fait les prises, mais le son du groupe en tant que tel, ça nous demande d'être beaucoup plus précis en fait. Après, on a fait les prises de drums dans un studio. Les prises de basse, de voix, de guitare se sont faites chez les musiciens directement puisqu'ils avaient tout le matériel qui allait bien. Donc comparativement avec d'autres expériences de studio que j'ai eues dans lesquelles y a tout le monde qui est dans le studio et chacun fait sa partie l'un à la suite de l'autre, etc. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est vrai qu'on a pris pas mal de temps pour le faire. Les premières parties de batterie que j'ai fait pour ces trois titres-là, je les ai commencées en mai 2019. Les dernières ont lieu au mois d'octobre 2019. Et déjà en mai 2019, je faisais des prises pour le disque qui va sortir dans quelques mois. Donc, on ne patiente pas d'être au pied du mur pour faire les prises. Clairement, on fait ça nettement plus tôt. Ça permet de voir comment est-ce qu'on évolue sur la durée.
D'accord. Autre élément important, ça peut être un peu le visuel, surtout pour un premier EP. Donc là, vous avez utilisé un visuel très simple, fond noir, un dessin qui fait assez celtique, je trouve. Enfin, plus le nom du groupe. C'était important pour vous de rester dans le sobre.
Oui, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à transmettre des émotions. À partir de ce moment-là, si on laisse l'imaginaire des gens travailler, ça fonctionne généralement mieux que si on est dans le figuratif de base simple. C'est dans ce sens-là qu'on a choisi ça, le fait d'être sur quelque chose de simple, de sobre. Chacun peut plus ou moins y voir ce qu'il veut finalement, même si quelque part, parce que voilà, il y a des traits qui sont très celtes, il y a des traits, on se cache pas de ce point de vue-là, mais on laisse les gens libres d'y mettre toutes les émotions qu'ils veulent finalement. Et ça, pour nous, c'est le plus important.
D'accord, d'accord, d'accord. Autre élément visuel, donc vous avez enregistré un clip vidéo qu'on peut voir sur YouTube, donc qui est pour The End of Lies.
Oui.
Alors déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était ta première expérience du genre pour l'enregistrement de clip? Et quels souvenirs t'en gardes en général?
Alors, oui, c'est un fait que c'est le premier clip que j'ai tourné malgré le fait que j'ai joué dans pas mal de formations, voilà. Mais c'est vrai qu'avec toutes les autres, on n'a jamais fait de clip. Peut-être parce que dans les années 90, c'était pas simple de faire des tournages de clips, ça coûtait super cher. Ouais, là, c'était la première fois. Le seul truc qui m'a perturbé vraiment, c'est d'avoir mis des pommèches sur la batterie et donc bah, que j'entende pas mes fûts, mais par contre que j'entende très bien toutes les cymbales. Donc ça fait vraiment bizarre de jouer comme ça. Mmh. Mais à part ça, c'est un travail qui est très intéressant. Je le referai sans problème. Maintenant, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus sur mon instrument, parce que jouer 15 ou 20 fois le même morceau juste pour avoir des plans, au bout d'un moment, ça peut finir par être un petit peu chiant. Mais dans le fond, je trouve que ce qu'on a fait, ça rend plutôt pas mal. Et si des gens le l'ont pas vu, je les invite volontiers à ce qu'ils aillent le voir.
Donc, où est-ce que vous avez shooté ce clip?
Alors, ça a été shooté au studio Walsby, qui est dans le 93, il me semble.
D'accord. Et donc, vous avez fait le choix de plutôt mettre en avant le groupe en train de jouer, pas forcément scénariser le clip. Et vous avez travaillé avec donc Cécile Del Poyo.
Oui, tout à fait.
Donc pourquoi ce choix de pas finalement scénariser et finalement quand on travaille avec quelqu'un qui a l'air assez doué comme Cécile, quelle valeur ajoutée elle vous apporte?
Alors le fait qu'on ait travaillé avec elle, ça vient du fait qu'on est potes et puis qu'on se connaît et ça depuis longtemps. Le fait qu'elle avait déjà fait des clips pour d'autres groupes et puis qu'elle en fait toujours, le fait que parce qu'on la connaît, on n'a pas forcément eu des coûts très 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 élevés, et surtout c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans un clip très scénarisé. C'est parce que la majorité des clips, quand ils sont très scénarisés, demandent énormément de post-production, et ça coûte super cher. Donc vu que en tant que jeune groupe qui avait encore rien sorti, qui n'avait pas vendu, qui n'avait pas fait de trucs comme ça, on pouvait pas trop se permettre non plus, on s'est dit on va se focaliser sur le groupe qui joue, quitte à ce qu'on mette deux ou trois petites scènes dedans, qui collent sur le texte, mais c'est principalement pour des raisons de coût qu'on n'est pas parti sur un film, en fait. Ce qu'on aurait pu faire, mais je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de pognon à ce moment-là.
Question qui peut paraître un peu idiote, mais c'est pas grave, je la pose. Finalement, donc quand on enregistre un clip, donc après quand toi tu découvres le clip, tu te vois en train de jouer. Est-ce que se voir en train de jouer, ça c'est surprenant dans sa gestuelle, dans sa technique, dans sa façon de faire?
Non, c'est pas vraiment surprenant puisque tout le travail de mon jeu, je le fais. Disons que quand je travaille, je mets des GoPro.
D'accord, tu te regardes, ok.
Je me sers d'un zoom aussi pour le son, c'est-à-dire que lorsqu'il faut vraiment que je travaille sur mon instrument, je prends ce genre de choses-là parce que je pense qu'il est très important de se voir pour voir si les gestes sont bons, s'il n'y a pas de problématique de placement ou de choses comme ça, voilà. Et le son est très important, pareil pour voir quels sont les points faibles, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, etc. Donc le fait de se voir jouer, non, moi ça me choque pas vraiment, ça me perturbe pas du tout. Pour moi, ça fait partie d'un process qui est celui qu'il faut que je travaille mon instrument et voilà.
D'accord. Ok. Non, c'est logique. Parlons un peu de la situation actuelle. Dieu sait qu'elle est compliquée au niveau sanitaire. Donc j'ai vu, en parlant de rendez-vous, donc j'ai vu que vous aviez fait un premier rendez-vous pour un peu introduire l'EP. Donc vous aviez fait un événement au Dr Feelgood.
Oui, tout à fait.
Avec toujours le côté assez spécifique, mais qui est très de l'époque actuelle, c'est de dire, il y aura maximum 37 personnes en même temps dans le bar.
Ouais.
Donc c'est déjà ça, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est passé vraiment bien en fait, on a croisé bon nombre de gens. Il y avait des gens, bah, bien sûr, que l'on connaissait parce que c'est des proches, mais il y avait surtout pas mal de gens qui étaient présents ou alors qui sont passés, qui nous connaissaient pas et qui ont pris du merch, voilà, qui ont pris notre CD, qui ont pris des t-shirts, qui ont pris des trucs comme ça. Et il se trouve que c'est pas des proches, donc en fait, de mon point de vue, je trouve que ça s'est très très bien passé. Ça s'est vraiment très très bien passé.
Super. Et l'autre événement, donc là par contre qui doit arriver, c'est le 22 octobre, la release party que
Oui,
vous
tout à fait,
faites. Pardon?
oui.
Oui, que vous faites à la Péniche Antipode et vous jouerez avec un autre groupe qui s'appelle Remember the Light.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors,
Vas-y, vas-y.
on croise les doigts pour que ça se fasse, hein, tout en sachant que bah on sait pas tellement ce qui va se passer dans les jours qui arrivent.
C'est clair.
Maintenant, pour nous, ce concert-là, il est très, très, très important. Parce que cette petite salle-là fait partie des quelques-unes qui restent sur Paris qui font jouer des groupes. Je pense qu'ils ont besoin que les groupes viennent jouer et qu'ils fassent des shows et qu'ils fassent des choses comme ça parce que, effectivement, la situation fait que c'est très, très, très compliqué pour tout le monde. Et le fait qu'on essaye à tout prix de maintenir cette date-là, c'est pas que pour nous, pour qu'on joue, c'est aussi pour qu'on paye d'être là et de les soutenir et de montrer qu'on peut quand même continuer de faire des choses. Donc, et le fait qu'on joue avec ce groupe-là, bah c'est parce que c'est des potes, hein, voilà, simplement, et qu'ils ont un style qui est relativement proche du nôtre. Donc, je pense que ça peut se passer très très bien en fait. Il suffit juste que le concert soit maintenu. Voilà.
Ce qui n'est pas gagné vu le bordel actuel. Oui.
Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord.
Deux dernières petites questions pour terminer. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les mois qui viennent?
Qu'on ait la possibilité de faire le maximum de concerts possible, parce qu'on fait partie de ceux qui pensent que la musique ne vit vraiment que quand elle est jouée live. C'est bien de faire des albums, mais c'est encore mieux de se confronter, voilà, d'être là sur scène et de faire vivre ce qu'on fait. Donc, le fait de dire ça touche pas que nous, ça touche forcément tous les groupes qui voudraient jouer, toutes les tournées qui n'ont pas lieu, tous les festoches, voilà, qui doivent se faire. Moi, si on nous souhaite de faire plein de dates, ça veut dire que on peut de nouveau tous jouer et ça, c'est vachement bien.
Super. Et dernière question. Donc toi, avec ton expérience, quelle est ta vision de la scène métal francilienne?
Je pense qu'elle est vachement riche, cette scène-là. Je pense qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de styles, il y a plein de très 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 bons groupes. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment riche, je trouve qu'elle est vraiment très 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 intéressante. Après, c'est comme toutes les scènes un petit peu partout dans le monde, le truc qui fait que ça vit, c'est le public. Et ça, pour ça, il faut qu'il soit là. Et quand il est là, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est être véritablement reconnaissant du fait que bah, même dans les petits cafés-concerts, dans les petits clubs dans les petites salles, les gens sont là. Et ça, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que cette scène-là, elle est vachement riche. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui se passent. Bon, pas trop ces temps-ci parce que c'est compliqué, mais il faut que ça reste comme ça, voire même que ça devienne encore plus riche. Quand on voit qu'il y a des petits festivals comme le Cave Fest qui avait commencé avec 50 pèlerins et qui maintenant font des dates beaucoup plus grosses, je pense vraiment qu'on peut avoir une vraie scène qui vit, vraiment.
Parfait, ben écoute, on va rester sur cette conclusion, espérons optimiste. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous répondre et puis donc on va vous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre site.
Ok.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Ciao.
Ciao.